Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour ou de découvrir d'autres écrits du même auteur. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Magali ou Catherine. Et donc, après un été sous le soleil, de l'Italie, ou plutôt des immigrés italiens en France, où nous emmenez-vous ce mois-ci ?
Eh bien, nous avons décidé de rester en Italie, mais dans un univers complètement différent. Par contre, le point commun, c'est que l'auteur est italien.
Mais ce n'est pas Cavana.
Pas du tout.
Alors, ce n'est pas le même style.
Du tout.
Donc, mystère, dis-nous-en un petit peu plus.
Alors, on a choisi un texte que nous aimons beaucoup toutes les deux, Catherine et moi, donc. « La petite lumière » d'Antonio Moresco, qui a été publié chez Verdier en 2014 et sorti en Italie en 2009 sous le titre « La Lucina ».
En fait, c'est son premier texte traduit en français, ce n'est pas son premier roman. Antonio Moresco, écrivain et journaliste, est né donc en 1947 et il a écrit une dizaine de romans, des nouvelles, du théâtre et des essais. La petite lumière, c'est à la fois un roman, une fable métaphysique. Et quand il est sorti, ça a été salué par la critique en France.
Exactement, c'est tout à fait vrai, puisque sur le bandeau de la version poche, on trouve une citation de Daniel Pennac qui écrit...
Une référence quand même.
Sacrément, inoubliable dès la première phrase. Et il a même dit lors d'une émission littéraire que c'est le livre qui l'emmènerait sur une île déserte. Donc, comme tu dis, Dominique, la référence est de taille. Donc, pour entrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est le récit d'un isolement, d'un dégagement, mais aussi d'une immersion. Le lecteur, pris dans l'imminence d'une tempête annoncée, mais qui tarde à venir, reste suspendu parmi les éléments déchaînés du paysage qui s'offre comme le symptôme des maux les plus déchirants de notre monde, au moment de sa disparition possible. Le narrateur est intrigué par une petite lumière qu'il perçoit au loin tous les soirs et dont il décide d'aller chercher la source.
Bon, c'est un peu énigmatique, mais...
Et d'ailleurs, puisqu'il y a une jolie première phrase, je propose à Catherine de nous lire les premières pages de ce récit.
Je suis venue ici pour disparaître, dans ce hameau abandonné et désert dont je suis le seul habitant. Le soleil vient tout juste de s'effacer derrière la ligne de crête, la lumière s'éteint. En ce moment, je suis assis à quelques mètres de ma petite maison face à un abrupt végétal. Je regarde le monde sur le point d'être englouti par l'obscurité. Mon corps est immobile sur une chaise en fer dont les pieds s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Et pourtant, de temps en temps, j'ai le souffle coupé, comme si je chutais assis sur une balançoire aux cordes fixées en quelque endroit infiniment lointain de l'univers. Le ciel est traversé par les dernières hirondelles qui volent, çà et là, comme des flèches. Elles passent en rase-motte au-dessus de moi, s'abattant tête la première sur de vastes sphères d'insectes suspendues entre ciel et terre. Je sens le vent de leurs ailes sur mes tempes. Je vois distinctement devant moi le corps noir, plus caréné et plus grand, de quelque insecte englouti par une hirondelle qui le suivait le bec grand ouvert en lançant des cris. Le silence est tel que j'arrive même à entendre le craquement de son corps qui continue à souffrir, broyé et démembré dans le corps de l'autre animal qui remonte grisé dans le ciel. Je reste encore un long moment assis là, la lumière disparaît progressivement, tout ce monde végétal devient de plus en plus sombre devant mes yeux. De tous côtés commencent à se lever les cris des animaux nocturnes, invisibles dans le feuillage noir. Pas un signe de vie humaine. Excepté quand l'obscurité se fait encore plus épaisse et que les premières étoiles commencent à paraître, De l'autre côté de cette étroite gorge abrupte, sur une partie plus plane de la ligne de crête incurvée au milieu des bois comme une selle, chaque nuit, toujours à la même heure, cette petite lumière qui s'allume soudain. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite lumière ? Qui peut bien l'allumer ? Je me demande, tout en marchant dans les rues empierrées de ce petit hameau où personne n'est resté, est-ce que c'est une lumière qui filtre d'une petite maison solitaire dans les bois ? Est-ce que c'est la lumière d'un réverbère resté là-haut, dans un autre hameau inhabité comme celui-ci ? Mais de toute évidence encore relié au réseau électrique, qu'une simple impulsion allume toujours à la même heure ? On n'entend que le bruit de mes pas qui résonnent dans les ruelles. J'aperçois les marches de pierre d'un petit escalier sur le point de s'effondrer, la porte enfoncée d'une étable, les restes de toits en ardoise écroulés et recouverts de plantes grimpantes, d'où jaillissent les cimes de figuiers ou de lauriers poussés entre les gravats, deux abreuvoirs en pierre remplis d'eau, des portails à la peinture éblouissante et craquelée. Où suis-je, me demande. Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que cet endroit hors du monde que mes yeux voient existe vraiment ? Même si personne d'autre que moi dans tout l'univers ne sait qu'il existe, ne sait qu'en ce moment il y a un homme absolument seul qui déplace son corps parmi ces dépouilles de pierre sur lesquelles le tourment végétal des plantes grimpantes ne cesse jamais, ni le jour ni la nuit. Je descends une route étroite en pente qui mène à un petit cimetière. Quand il y a la lune, on voit distinctement éclairé comme en plein jour par sa lumière spectrale le talus de la petite route envahie par la végétation, les précipices d'où monte un bruit d'eau creusant son lit dans les antres sonores des montagnes, imprégnées de pluie et dans les gorges, les hautes silhouettes des arbres qui se découpent sur le ciel. Il n'y a que la nuit. Dans la lumière lunaire que l'on comprend ce que le sont les arbres, ces colonnes de bois et d'écume qui s'élancent vers l'espace vide du ciel. S'il n'y a pas de lune, il faut marcher à tâtons dans le noir, sous la bouleversante voûte céleste criblée de myriades d'étoiles inhabitées et d'autres effilochures de lumière. Cette nuit, tout est noir. Il n'y a pas de lune. Je marche le long de cette petite route en pente jusqu'à un dernier tournant derrière lequel on voit subitement les lumignons d'un cimetière. Je descends encore plus, je regarde au loin cette petite galaxie de lumière dans le noir. J'arrive jusque devant le portail fermé. Je regarde de près les lumignons allumés devant les niches à la couleur indéfinissable entre l'orange et le rouge qui palpitent intensément dans l'obscurité de cette nuit sans lune. Il doit arriver de quelque part une impulsion électrique qui s'allume, enfin qui allume aussi ces lumignons, je me dis. Mais comment se fait-il qu'il y ait un cimetière tout près de ce hameau inhabité ? Qui peuvent bien être les gens ensevelis là-dedans ? Dans la terre et dans les niches ? D'où peuvent-ils bien venir ? Des hommes, des femmes et même des enfants, je crois, voir ces tas de terre plus petits que les autres et ces petites photos à peine éclairées par les lumignons. Je retourne chez moi le long de la route noire sous ce chambardement d'étoiles. À côté des abreuvoirs de pierre, sans doute sortis de sous une vieille grille en fer sous laquelle on entend l'eau gargouiller, j'aperçois un crapaud à la silhouette trapue et sombre qui fuit avec des bonds pesants au bruit de mes pas. J'entre dans ma maison, je ferme le portillon, même s'il n'y a personne. Je bois deux verres d'eau dans la cuisine, je monte le petit escalier en bois. J'entre dans ma petite chambre, je me déshabille, je mets mon pyjama. J'entre dans mon petit lit qui grince un peu quand je m'étends. Mes oreilles sifflent dans cette absence absolue de son. Je reste un moment comme ça, les yeux grands ouverts dans le noir. Je ne saurais dire combien de temps. Je suis déjà sans doute entre veille et sommeil quand je crois percevoir des grincements provenant d'en dessous, des petits bruits secs soudain, peut-être le bois des meubles et des tiroirs qui se contractent et se dilatent dans le noir. Je me lève, je descends le petit escalier, je déambule un moment au rez-de-chaussée, j'allume la lumière pour vérifier que tout est à sa place et que personne n'est entré, même si je sais qu'il n'y a personne. Je vais même regarder dans les cabinets. Je tire la chasse d'eau parce qu'il y a un petit écoulement causé par le flotteur qui n'est pas parfaitement en place et qui, dans le silence et dans l'obscurité de la nuit, semble amplifié. Je retourne au lit, je suis sur le point de me rendormir. mais il y a d'autres petits bruits qui viennent d'en haut cette fois, dans l'espace entre le plafond et le toit. Car sous les tuiles ou le long de la cheminée se glissent des animaux parfois assez gros, pas seulement des oiseaux, mais aussi des bêtes à quatre pattes qui marchent ensuite là-haut dans le noir au-dessus de ma tête. J'allume la lumière, je descends à nouveau de lit, je prends ma torche, j'appuie l'échelle contre le mur, je monte, j'ouvre la trappe, toussant à cause de la poussière qui tombe. J'observe d'en bas cette zone sombre pleine de choses immobiles, de bouts de planches, de feuilles de cellophane presque pétrifié sous un voile de chaux. Je pointe la torche à droite et à gauche, mais on ne voit rien. Il n'y a pas Dieu qui me fixe, ébloui dans l'obscurité. Je retourne au lit. J'éteins la lumière sur la table de nuit, mais tout de suite après, je me lève encore une fois, parce que je ne me souviens pas si j'ai fermé le volet en bois de la petite fenêtre. Je fais quelques pas pieds nus sur le plancher, je me penche un instant vers ces montagnes noires, recouvertes de forêts. Je regarde une dernière fois cette petite lumière allumée de l'autre côté de la gorge dans le noir. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite lumière, je me demande encore. Je ferme la fenêtre, je me remets au lit et peu après, je m'endors.
Cet homme dont nous ne saurons rien, ni le nom, ni le passé, raconte au jour le jour sa retraite volontaire dans un hameau désert et abandonné d'une montagne, elle aussi, sans nom. Il contemple le monde, il médite en observant très précisément ce qui l'entoure, la nature, les animaux, le vent, les ruines, le silence. Il croise quelques humains dans les villages proches, les échanges sont rares. On découvre dans son quotidien des éléments familiers cependant. Un petit magasin pour faire ses courses, un endroit où faire le plein d'essence, mais l'atmosphère donne une impression de fin du monde imminente. La nature, elle, est très présente, presque oppressante et semble vouloir prendre la main sur l'humain. Elle est envahissante, dévorante et elle semble vouloir effacer la présence humaine. Et dans cette nature, les animaux sont là, agressifs, aux abois ou cachés, Des chiens sauvages attaquent les hommes, des hirondelles hurlent et les nuits noires tremblent au rythme des séismes fréquents.
Oui, j'étais en train de m'arrêter sur les hirondelles qui hurlent, mais c'est vrai que ça fait une atmosphère un petit peu oppressante, hein, alors que dans ce que tu as lu, tout semble paisible en apparence.
Oui, c'est comment dire, c'est paisible et on a l'impression qu'il y a quand même une sorte de menace.
Il est perturbé voilà. Quand même, ouais, hein,
ouais,
il se relève.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Oui, oui, il y a une impression de, comme tu disais, en fait, de prépondérance de la nature quand même, et avec l'idée de la menace, oui.
Bien, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, tout à fait, j'ai choisi justement un extrait qui illustre l'importance de cette nature, aussi bien du côté animal, végétal, mais aussi minéral. Et tout ceci est décrit avec une grande précision, beaucoup de réalisme, et avec beaucoup de poésie aussi. Tout à l'heure, alors que j'étais au lit et que je dormais profondément, dans mon premier sommeil, j'ai été réveillée par un tremblement de terre. Ce n'est pas rare ici parce que c'est une zone sismique. Parfois, il m'arrive de ne pas me réveiller complètement, mais même dans mon sommeil ou dans mon demi-sommeil, je continue à sentir, arrivant jusqu'à la surface, les vibrations des glissements souterrains de failles qui font trembler le lit où je suis allongée, les murs de la maison, de la chambre, les rares meubles qu'il y a dedans, tout le petit hameau inhabité où je vis, mais également la surface de la terre, les arbres, les animaux dans leurs trous creusés en profondeur, les nocturnes qui se déplacent en silence à la recherche de proies, et peut-être aussi ceux qui volent dans le ciel en scrutant de leurs yeux ronds la terre noire à la recherche de quelque chose qui vit, et sans doute que de là-haut aussi ils entendent le ciel trembler. Quelquefois, quand les secousses sont plus fortes, je me lève du lit, je sors pieds nus et je marche dans le petit hameau qui tremble jusqu'à une petite place tout près de ma maison. Je regarde autour de moi pour voir si les maisons délabrées sont encore debout ou si elles se sont écroulées. Le matin, quand il fait à nouveau jour, je vois, ça et là, des tuiles cassées au milieu des ruelles empierrées tombées des toits éventrés de quelques ruines. Je fais le tour de ma petite maison en observant les murs pour voir s'il y a des fissures, parce que ça me paraît impossible qu'il ne soit rien arrivé à sa structure soumise à une longue série de secousses. Je monte sur le toit avec l'échelle. Je remets en place les tuiles qui ont bougé à cause du tremblement de terre ou du grattement de tous ces oiseaux et de tous ces animaux à quatre pattes qui entrent la nuit dans l'espace entre le plafond de ma chambre et le toit, et que j'entends marcher au-dessus de ma tête quand je suis dans un demi-sommeil ou que j'ai les yeux grands ouverts dans le noir. D'autres fois, je ne me lève pas, quand je suis dans mon premier sommeil et que je n'arrive pas à me réveiller complètement. Je perçois à peine les secousses du tremblement de terre qui succèdent les unes aux autres. Le vertige, le sentiment de nausée et la légère perte de connaissance qu'elle provoque dans mon corps qui s'obstine à rester couché comme ça, entre veille et sommeil, tandis que tout vibre autour de moi et que dans les zones profondes, de grandes masses sombres et des parois de terres et de marbre s'écroulent les uns sur les autres. Cette nuit, je me suis levée. J'ai vérifié que dans les murs et près des portes, aucune fissure ne s'était ouverte. Je suis également descendue voir dans la petite cave, qui se trouve sous un grand passage voûté, là où je mets le bois. Et puis je suis venue ici, une couverture sur les épaules parce qu'il fait froid la nuit, même si on l'est en été. Je me suis assise sur cette petite chaise en fer, dont les pieds fins s'enfoncent de plus en plus dans le sol, devant la balustrade basse en pierre qui domine la pique. Avant de sortir de chez moi, j'ai pris de vieilles jumelles que j'ai apportées jusqu'ici, mais dont je ne me sers jamais parce qu'il n'y a rien à voir, sauf cette étendue impénétrable d'écume végétale qui recouvre le monde à perte de vue. Je les pointe sur cette petite lumière. Je manœuvre la molette un peu faussée pour faire le point, parce que la petite lumière semble s'élargir et se rétrécir, comme si je la voyais de l'autre côté d'une surface d'eau. Mais je n'arrive pas bien à voir, peut-être à cause du passage de mes cils sur la lentille, ou peut-être parce que sur mes yeux encore pleins de sommeil, il y a ce voile liquide qui déforme les contours et fait déflagrer les lumières. On ne comprend pas ce que c'est, cette petite lumière, encore moins qu'en la regardant à l'œil nu. On ne comprend pas si c'est une lumière qui filtre d'une fenêtre ou bien un réverbère peu élevé, suspendu à un câble. Et pourtant, on dirait qu'elle grandit de plus en plus en intensité. On dirait qu'elle palpite. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite lumière, je me demande encore. Pourquoi parfois elle apparaît plus grande, plus intense, et tout de suite après, on dirait qu'elle rapetisse jusqu'à disparaître. Est-ce que ce serait autre chose? Est-ce que ce serait un geste de manifestation lumineuse causé par une activité magnétique d'origine tellurique? On n'entend aucun bruit, pas un seul cri d'animal nocturne, de terre, d'air. Ils doivent tous être immobiles, qui sait où, pétrifiés, après que le tremblement de terre a fait vibrer la terre et le ciel sous leurs pattes et sous leurs ailes. Il faut que j'aille là-bas, je me dis encore, en continuant à regarder cette petite lumière, la couverture sur les épaules. Il doit bien y avoir une route, un chemin pour arriver là-haut.
Nous y voilà, le mystère de la petite lumière, là. Est-ce que le narrateur va tenter d'en savoir davantage?
Eh bien oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois bien comme ça l'obsède, ce pauvre homme. Alors il décide de prendre la route pour s'approcher de cette mystérieuse lumière. Alors on a du mal, mais on imagine le décor. C'est-à-dire que c'est vraiment des sortes de vallées abruptes.
Ça va être montagneux, effectivement.
Ça a l'air très complexe. Alors on imagine peut-être le nord de l'Italie, peut-être on a le droit de rêver aussi, nous. Donc, je vais vous lire un passage où il va essayer de découvrir cette petite lumière. « un jour a passé. Pendant la nuit, le vent a chassé les nuages noirs qui menaçaient de tous côtés et le ciel s'est ouvert. Je suis allée prendre la voiture, je l'ai sortie de cette étroite étable aux murs et aux poutres encore imprégnées de l'odeur des bêtes qui y vivaient. Comment je vais faire pour trouver cet endroit? Je me disais en descendant vers le fond de la gorge sur cette petite route goudronnée et puis en remontant un moment de l'autre côté à la recherche d'une autre petite route ou tout du moins d'un chemin qui puisse me rapprocher de l'endroit probable de la crête où la nuit je vois briller cette petite lumière. Je montais lentement. C'était une succession de lacets si serrés qu'ils donnaient un léger sentiment de vertige. Je regardais par le haut du pare-brise pour ne pas perdre de vue l'endroit probable de la crête et des bois d'où la nuit filtre jusqu'à moi cette lumière. Des oiseaux traversaient de temps à autre la route, volant bas, presque à la hauteur du pare-brise, pour observer celui qui pénétrait dans leur royaume. Tout à coup, après une série de lacets encore plus serrés, où le goudron était tout fendu et arraché, il m'a semblé apercevoir l'entrée d'un chemin, guère plus large qu'un sentier. Mais je m'en suis aperçue trop tard, tant elle était étroite et à moitié cachée par la végétation, et donc je l'ai dépassée. J'ai freiné, je suis revenue en arrière sur une dizaine de mètres, j'ai pris le chemin et aussitôt après, je me suis arrêtée. Je suis descendue pour tenter de comprendre si je pouvais continuer en voiture ou si je devais poursuivre à pied. J'ai regardé autour de moi. Le chemin était enclos de chaque côté par la végétation qui avait envahi une grande partie de la voie. Mais la chaussée était suffisamment large, il y avait même de petites portions d'asphalte, ça et là, envahies par l'herbe et par les ronces, signe qu'autrefois c'était une route. D'en haut arrivaient les cris brefs et inquiets des écureuils. Je suis remontée dans la voiture, j'ai regardé un moment à travers le pare-brise, ce monde inconnu dans lequel je pénétrais sans savoir quoi faire, si je devais redémarrer ou continuer à pied, d'autant que je ne savais pas non plus si ce chemin menait vraiment jusqu'à l'endroit de la crête d'où provenait cette petite lumière. J'ai démarré, j'ai passé la première, la voiture s'est mise à rouler doucement sur ce petit ruban de route. On entendait dans ce silence végétal absolu de petits bruits venir d'en haut, des cimes des arbres et même du ciel, le bruit de quelques branches qui se brisaient sous les roues, de quelques buissons bas ou de quelques ronces pleines d'épines qui s'étiraient au ras du sol jusqu'en travers du chemin. J'ai continué ainsi pendant un moment au pas. Parfois le chemin s'élargissait légèrement, passant entre des arbres plus grands sous lesquels l'herbe ne poussait pas, et puis remontait au milieu des branchies de la forêt qui se resserraient à nouveau autour du capot de la voiture. J'ai allumé les phares, même s'il faisait jour, parce que, à certains endroits, l'obscurité était si profonde que j'y voyais presque pas. Un renard a traversé le chemin, sa longue queue à l'horizontale dans sa course. Pendant un instant, il a tourné la tête ébloui, avant de disparaître au milieu du feuillage. Le chemin continuait à monter vers la crête. Il y avait des moments où la végétation s'ouvrait et le soleil filtrait. J'ai vu soudain devant moi un petit pont de planches jeté au-dessus d'un torrent couvert d'écume qui coulait en chuintant au milieu des pierres. Je l'ai franchi lentement, les roues presque au ras de l'eau. J'ai recommencé à monter, même si je ne savais pas où j'allais, si on pouvait revenir en arrière sur cet étroit chemin, s'il y avait quelque part un endroit où manœuvrer et faire marche arrière. Puis le chemin s'est interrompu d'un coup. Quelques grands arbres cassés s'y étaient abattus et coupaient la route en diagonale. Il n'était plus possible de poursuivre en voiture. Je me suis arrêtée, je suis descendue. J'ai regardé autour de moi dans cette petite clairière traversée par ces grandes formes désormais sans écorce. De longues échardes acérées se dressaient aux endroits où les arbres avaient été brisés, peut-être la foudre, peut-être le vent, peut-être même sous leur propre poids. Je les ai enjambés, j'ai continué à pied sur le chemin encore plus étroit qui se prolongeait tout de suite après. J'avais l'impression de ne pas être très loin de la crête, si c'était bien la même que je voyais de chez moi, si je ne me trouvais pas dans un endroit complètement différent au milieu de ces montagnes toutes pleines de ravins, de précipices et de gorges. Je n'étais pas loin en effet, et j'étais déjà sur le haut de la crête, car le chemin ne montait plus. À présent je marchais sur le plat, mais on ne voyait pas le paysage, on ne voyait rien, seulement des arbres, de la végétation et des ronces qui s'avançaient de tous côtés en traversant le chemin de leurs tentacules végétales, de leurs crochets, de leurs radicelles, de leurs étaux. Mais il y avait encore un semblant de chemin qui menait quelque part. J'apercevais même des bouts de barbelés tombés et enfoncés dans le sol, quelques briques décolorées et cassées, quelques pierres, signe qu'autrefois il devait y avoir eu ici une maison ou un abri pour les bêtes. Je continuais à marcher, la lumière du monde ne s'ouvrait pas, le ciel ne se voyait pas tant la crête est dominée par la forêt. Tout à coup, dans l'épaisseur de la végétation est apparue soudainement devant moi une petite maison en pierre. Je me suis arrêtée. C'est ici, je l'ai trouvée, je me suis dit le cœur battant. Ça doit être d'ici que filtre cette petite lumière que je vois la nuit de chez moi quand je m'assois sur ma chaise en fer et que je regarde de l'autre côté de la gorge, d'une lampe devant la porte, d'une petite fenêtre. Mais il n'y avait ni porte, ni fenêtre, seulement des murs aveugles en pierre qui la fermaient de chaque côté. Comment c'est possible ? C'est quoi cette maison ? J'ai pensé. Tout de suite après, j'ai compris que je me trouvais sur l'arrière, que je devais faire le tour pour gagner l'entrée. J'ai suivi le mur, je suis arrivée sur le devant. Il y avait une porte, et elle était même ouverte. À l'intérieur, dans une cuisine, se trouvait un enfant, en culotte courte, la tête rasée. Il soulevait dans ses petits bras un nuage de drap qu'il s'apprêtait à mettre dans un baquet. De stupeur, je me suis arrêtée. Lui aussi s'est arrêté, le nuage de drap dans ses petits bras. On s'est regardé sans parler. L'enfant avait les yeux écarquillés, grands, ronds, la bouche ouverte d'où sortait une petite dent cassée. « Mais qui es-tu, toi ?» j'ai voulu dire. Il ne m'a pas répondu. Il continuait à me regarder de ses grands yeux écarquillés, ronds. Sa petite tête rasée dépassait à peine du nuage de drap. « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? La lessive ?» J'ai bredouillé encore parce que je ne savais pas quoi dire. « Oui !» Il m'a répondu après un instant d'hésitation de sa petite voix. « Pourquoi tu fais la lessive ?» Il a rougi soudainement. « Je fais pipi au lit, » il a dit en baissant la tête de honte. « Je dois toujours laver les draps parce que sinon ils sentent mauvais. » Je continuais à le regarder sans ciller. « Mais c'est toi qui les laves ?»« Oui. »« C'est pas ta maman qui les lave ?» je lui ai demandé. « Maman, elle n'est pas là. »« Et ton papa ?»« Il n'est pas là non plus. »« Tu vis ici tout seul au milieu de la forêt ?» je lui ai demandé abasourdi. « Tes parents ne sont pas là. »« Non. » J'étais debout, immobile, figée devant la porte. « C'est toi qui gardes la lumière allumée la nuit ?» je lui ai demandé. Il est resté quelques instants en silence. « Oui, » il a dit en baissant la tête. « Et pourquoi ?»« J'ai peur du noir. » Je continuais à rester plantée devant la porte tandis que l'enfant s'était remis à me regarder, son nuage de drap serré contre sa joue. « Tu veux que je t'aide ?» j'ai voulu dire. « Non, je te remercie, » il a répondu de sa petite voix. Je ne savais plus quoi dire. L'enfant était tout penché en face de moi, un peu déséquilibré par le poids des draps. « Je peux faire quelque chose pour toi ?» Il m'a pris de lui demander encore. « Non, » il m'a répondu. J'aurais voulu lui demander si je pouvais entrer, mais je comprenais qu'il ne valait mieux pas, d'autant plus que l'enfant avait bougé. Il m'avait déjà tourné le dos, il avait déjà laissé tomber le nuage de draps dans le baquet plein d'eau savonneuse, les enfonçant dedans plusieurs fois avec ses petites mains. « Excuse-moi, mais là, j'ai beaucoup à faire. Hein. » Il m'a congédié avec gentillesse. J'ai fait demi-tour. Je me suis mise à marcher vers l'endroit où j'avais laissé la voiture, longeant la maison et puis prenant ce chemin envahi par la forêt. Et j'entendais les pierres et les petites branches craquer sous mes pas. Je suis arrivée au tronc brisé, je les ai enjambées, je suis montée dans la voiture, j'ai démarré. Eh bien, je l'ai trouvé, je me disais en roulant à nouveau lentement sur cet étroit chemin traversé par les ronces qui frappaient sur le pare-brise et sur les portes de leurs longues branches pleines d'épines, comme des fouets. C'est de là que vient cette lumière, de cette petite fenêtre qu'il y a en haut à l'étage au-dessus de la cuisine. Apparemment, elle arrive à passer à travers les arbres, d'un point où les branches s'écartent les unes des autres et le feuillage est plus rare. Il l'allume de l'autre côté de la gorge, cet enfant qui vit tout seul au milieu de la forêt, en culotte courte, d'où sortent ses petites, maigres jambes. Mais c'est bizarre. Les culottes courtes, ça fait un bail qu'ils n'en mettent plus, les enfants.
here in Northeast Ohio back in 1803. James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnace, kept them hotter than hell. I come home from now, work my way to Scarford, a job that suits the devil as well. Well, the taconite, coke, and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell.
Donc le narrateur découvre un petit garçon qui vit tout seul, vraiment tout seul, dans la forêt. C'est étonnant, non ?
Ah oui, ça, c'est le mot, c'est étonnant. Et en plus, ce petit garçon, parce qu'on, dans le roman, on va le revoir, hein, il semble que rien ne le perturbe vraiment dans ses tâches quotidiennes. Il fait son ménage, il fait sa cuisine, il se débrouille très bien, il fait ses devoirs.
Il va à l'école, alors ?
Alors, voilà, il fait des devoirs, et des devoirs qu'on lui a donnés, semble-t-il. Donc, c'est vrai que c'est très perturbant. Surtout que le narrateur, il est monté en grande partie en voiture, et que l'école, elle est tout en bas.
Ah oui ?
Enfin, c'est vrai que ça... Et puis, il a ses vêtements anachroniques. Ce garçon semble, donne l'impression d'être sorti du passé. Et on découvre au fil des pages que, peu à peu, la méfiance réciproque va laisser place à un lien. Un lien de plus en plus fort, mais qui est très lent à se mettre en place, entre ces deux êtres. Et le narrateur prend l'habitude de s'aventurer dans la forêt pour rendre de fréquentes visites à ce petit garçon triste et grave, qui devient un peu son protégé. «
Ainsi, tous les deux ou trois jours, quand je vais là-bas, je m'assois sur le petit banc cassé près de la porte pour ne pas rester debout tout le temps et on parle, tandis que l'enfant est occupé à ses travaux, à faire la lessive ou la vaisselle, à laver par terre avec une serpillière qu'il tire et pousse avec un moignon de balai. « Alors, tu vas à l'école ?» je lance pour engager la conversation. « Oui, bien sûr !» il me répond en continuant à frotter la serpillière sur le sol de la cuisine. « Mais tu vas dans quelle école ? Pourquoi certains matins, quand j'arrive ici, tu es là ?»« À l'école du soir. »« Il y a une école du soir par ici ?»« Oui, en bas, au village. » »« Et tu fais la route à pied, tout seul, dans la forêt ?»« Forcément. » »« Tu veux que je t'accompagne ?» « Ah non, merci, j'ai l'habitude !» Je reste silencieux. Je le regarde, penchant la tête depuis le banc pour arriver à le voir à l'intérieur de la cuisine, tandis qu'il continue à pousser son balai-brosse improvisé, le visage rougi par l'effort, s'interrompant parfois pour répondre à mes questions. « Et la lumière ?» je demande encore au bout d'un moment. « Quand est-ce que tu l'allumes, la lumière ?» Comment ça se fait que je la vois s'allumer toujours à la même heure depuis chez moi ? Je l'allume dès que je rentre de l'école du soir. Je reste à nouveau silencieux. J'entends, même d'où je suis, le bruit de son souffle court sous l'effort. Et comment tu fais avec les bêtes ? Il me passe par la tête de lui demander encore au bout d'un moment. Tu es au milieu des bois, comment tu fais pour tenir les bêtes à distance ? Il s'interrompt quelques instants, il vient me répondre près de la porte. « Je tape avec les couvercles, » il dit en me regardant de ses yeux ronds. « Je prends deux couvercles de casserole et je les tape fort pour leur faire peur et les tenir loin. » Je souris. « C'est ce que je fais moi aussi des fois, » je lui réponds. « La nuit, quand j'entends leurs cris trop près de la maison. » Je reste à nouveau silencieux. J'entends que dans la cuisine, l'enfant a cessé de laver par terre, qu'il a rincé la serpillière dans l'évier, qu'il a mis le moignon de balai debout à côté. « Tu veux que je t'aide à faire tes devoirs ?» je lui demande, quand je vois qu'il a sorti les cahiers de son cartable et qu'il est allé s'asseoir à la table. « Non merci, c'est à moi de les faire. » Il ne dit plus rien pendant un moment. Moi aussi, je reste silencieux pour ne pas le déranger. D'où je suis, je le vois avec sa petite tête rasée penchée sur le cahier, la pointe de la langue entre les dents tellement il est concentré. On entend seulement, tout autour, le bourdonnement des insectes qui se jettent tête la première dans la pourriture parfumée des fleurs. Bizarre, bizarre, il me vient à l'esprit. Aujourd'hui, on ne s'en sert plus de ces cartables qu'on tient par une poignée, je crois. Les enfants vont à l'école avec toutes sortes de sacs à dos. Lorsque je reprends la voiture pour rentrer chez moi et que je suis déjà sortie du bois et que je roule déjà sur la route goudronnée, qui descend jusqu'au bout de la gorge, là où la pente est plus faible et où il y a des champs moissonnés, il m'arrive de voir ces jours-ci des hommes en bleu de travail qui brûlent la paille au chalumeau. Ils marchent le long des andins, brandissant de longues lances, d'où jaillit en sifflant une flamme bleue. Ils se dégagent des tas déjà consumés, une fumée âcre. Je n'en suis pas sûre, mais je crois remarquer quelque chose d'étrange dans le comportement des hirondelles. Certes, elles continuent comme avant de filer à toute vitesse dans le ciel, tandis que je suis assis sur ma chaise en fer dans la dernière lueur du jour. Et à descendre en piqué, suivant les insectes presque jusque sur mes tempes avec leurs becs grands ouverts et leurs cris, et puis à remonter plus haut dans le ciel où il y a plein d'autres hirondelles qui volent comme des folles. Et on ne comprend pas comment elles font pour se frôler l'une l'autre à cette vitesse sans jamais se rentrer dedans. Mais en même temps, il me semble saisir quelque chose de différent dans leur comportement, bien qu'elles continuent de mener leur folle vie de toujours et de ne le donnent pas à voir. Comme si elles étaient ici, en même temps, n'y étaient plus. Quelque chose d'imperceptiblement différent dans leur façon de remplir le ciel et de crier et de se frôler. Comme si elles faisaient aussi autre chose. Comme si elles se disaient aussi autre chose. « Qu'est-ce que vous fabriquez ?» j'ai crié tout à l'heure. « Tu ne vois pas ?» « On vole ?» elles m'ont répondu. « Oui, oui, ça je vois, » je crie encore. « Mais vous faites autre chose. Vous volez comme jamais je ne vous ai vu voler. On vole toujours comme tu ne nous as jamais vu voler. » Je les ai regardées encore un moment, sans plus rien dire, retenant mon souffle. Tout le ciel était traversé par ces flèches en folie qui pourtant ne volent pas comme des flèches qui décroche, plonge, change soudainement de direction, trisse. Comment on pourrait définir au niveau médical votre nature hyperkinétique, votre état mental ? Névrose moteur ? Hystérie ? Schizophrénie ? J'ai crié encore à l'une d'elles qui est descendue plus bas que les autres. « En attendant, prends-toi ça !» elle m'a répondu. Un instant après, j'ai été touchée en plein front par un jet sorti du petit trou pulsatif au milieu des plumes de ce petit corps fou en vol. Le ciel se fait de plus en plus sombre. Puis, soudainement, de l'autre côté de la gorge, sur la ligne de l'autre crête, s'allume cette petite lumière dans l'obscurité. Voilà, il est revenu de l'école, je me dis. Il vient tout juste de rentrer à la maison. Il a couru tout de suite allumer la lumière après avoir traversé la forêt, dans le noir, tout seul.
Hier soir, quand la nuit est tombée, au lieu de rentrer chez moi pour me préparer à manger, j'ai pris la voiture et je suis descendue au village. Je conduisais lentement, phare allumé, vitres baissées. J'ai vu, après un des virages, les lumignons du cimetière qui palpitaient dans l'obscurité. La nuit était noire. Il y avait un peu de vent. Un oiseau, peut-être réveillé en sursaut par le bruit du moteur dans ce silence absolu, a battu fortement des ailes au milieu du feuillage. Il devait y avoir une couche de gros nuages noirs dans le ciel car on ne voyait pas les étoiles. Je continuais à descendre, parfois au point mort, sur les longues pentes. Des animaux qui traversaient la route s'avisaient seulement au dernier moment de l'auto qui roulait sans faire de bruit. Ils tournaient soudainement la tête vers les phares, éblouis. Aucune autre voiture dans les parages. J'ai pris la route un peu plus large qui mène au village. Les rares maisons avaient leurs volets fermés, aucune lumière ne filtrait. Tout le monde devait être à l'intérieur en train de manger ou bien devant la télévision parce que les gens se couchent tôt dans ces contrées. Je suis arrivée au village, j'ai garé la voiture sur la place qu'il y a à l'entrée. Je suis sortie, j'ai fait quelques pas. Je n'étais jamais descendue à cette heure-là. Il n'y avait personne alentour, dans les petites rues coincées entre les maisons en pierre, pas même dans la grande rue qui traverse le village de bout en bout. L'unique bar était fermé, lui aussi. On entendait seulement de temps en temps le tintamarre de quelques téléviseurs provenant de l'une ou l'autre des fenêtres aux volets fermés. On voyait passer par les interstices une faible lueur, tandis que toutes les autres étaient silencieuses et éteintes, ces habitants déjà couchés dans le noir, dans leur lit. J'ai tourné à un coin de rue, je suis passée sous une voûte, j'ai fait encore quelques pas, je me suis arrêtée d'un coup, le cœur battant. L'école était plongée dans le noir. Aucune lumière ne filtrait de ses larges fenêtres, ni au rez-de-chaussée, ni à l'étage. Et pourtant, si là-dedans il y a des cours en ce moment, de la lumière devrait bien filtrer, je me suis dit. Les fenêtres n'ont pas de volets, elles doivent être masquées de l'intérieur par de grands rideaux épais que le concierge doit tirer dès qu'il fait nuit, quand les cours sont terminés, passant une dernière fois dans les couloirs avant de fermer l'école. Je suis restée là, figée, sans penser à rien, en silence. Le bâtiment était tout noir. Pas la moindre petite lumière, pas la moindre petite voix ne venait de l'intérieur. Je n'arrivais pas à faire le moindre pas pour retourner là où j'avais laissé la voiture avant de marcher dans le village désert. Je m'obstinais à rester plantée là, immobile, anéantie dans cet endroit sombre, à peine éclairé par un lampadaire que le vent balançait au milieu de la rue. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, je sais seulement que tout à coup, au moment même où j'avais réussi finalement à faire demi-tour pour rentrer, enfin c'est du moins ce qu'il m'a semblé, ou bien je l'ai seulement pensé, j'ai senti quelque chose comme un petit trou d'air dans mon dos. Je me suis tournée à nouveau vers l'école, mais on ne voyait rien. Le silence était tel que je pouvais entendre le léger grésillement que faisait la lumière dans le lampadaire au-dessus de ma tête. Au bout de quelques instants, il m'a semblé que le portail s'ouvrait lentement, sans faire de bruit, dans le noir. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai fait instinctivement un pas de côté pour ne pas me faire voir. Je suis allée me mettre derrière l'angle du bâtiment en face, d'où je pouvais voir sans être vue. Désormais, le portail s'était complètement ouvert, mais personne ne sortait. Il y avait toujours ce profond silence. Quelque chose grinçait quelque part, un peu plus haut, sans doute le lampadaire à cause du vent. J'avançais ma tête au coin du mur. De là, je pouvais voir une grande partie du portail à deux battants, complètement ouvert. Tout le bâtiment de l'école, toujours noir, même au rez-de-chaussée, même dans le hall qu'il devait y avoir après l'entrée. Puis, subitement, est arrivé un léger bruit de pas, comme venant de très loin. Quelques instants plus tard, les uns après les autres, en silence, des enfants ont commencé à sortir du portail avec leurs petites blouses noires et leurs cartables. J'avais les jambes molles. Je les regardais sans respirer, cachés derrière mon coin de mur, dans le noir, tandis qu'ils sortaient par le portail et puis descendaient les quelques marches qui menaient au niveau de la rue. J'essayais de distinguer au milieu des autres la tête rasée de l'enfant. Quelques autres enfants sont sortis. Je croyais qu'il n'y en avait plus, mais il en était encore sorti deux. Puis plus rien. Il n'est pas là, je me suis dit à la fin. Mais quand il semblait qu'il n'y avait plus personne d'autre, il est sorti lui aussi. Aussitôt après, le portail s'est refermé d'un coup sans faire de bruit derrière lui. Chaque enfant a suivi son chemin sans échanger un mot, sans un salut. J'ai failli sortir de derrière le mur où je m'étais cachée et m'approcher de l'enfant et lui prendre son cartable pour l'accompagner jusqu'à sa lointaine petite maison au milieu des bois, mais je me suis arrêtée parce qu'il m'avait déjà répondu non quand je lui avais demandé. C'est quoi ce monde ? Je pensais en regardant les enfants qui s'en allaient tout seuls dans le noir, avec leurs petites jambes nues, sous leurs petites blouses et avec leurs cartables. Où est-ce que quand tout le monde dort, il y a des enfants morts qui sortent en silence des écoles du soir tout seuls, sans que personne ne le sache, sans que personne ne les voie ? Ils n'ont personne qui les attend debout devant le portail, ils ne lèvent même pas leur regard dans le noir. De toute façon, ils savent pertinemment que personne ne les attend. Ils s'en vont tout seuls, qui sait où. Maintenant, cet enfant va traverser le village désert, il va prendre cette petite route qui monte et arrive jusqu'au début de la crête, puis le chemin plus étroit, envahi par la végétation et par les ronces qui grimpent au milieu de la forêt en pleine nuit, dans le noir. Il va arriver jusqu'à sa petite maison, il va allumer la petite lumière. Quelle peine ils font, les enfants morts, quand ils sortent comme ça des écoles plongées dans le noir, la nuit, tout seuls. Mais au fond, les enfants vivants ne font-ils pas autant de peine ?
Pour revenir à cette petite lumière, en fait, c'est une dernière petite lueur, un dernier petit éclat, peut-être une lueur d'espoir, de vie. Chacun la percevra différemment, hein, à la fois mystérieuse et inquiétante, comme l'enfant qui en est à l'origine.
En fait, il y a aussi une autre dimension quand on lit l'intégralité du roman, c'est l'histoire se déroule au fil des saisons. C'est aussi un cycle de saison, puisqu'on voit après, justement, les hirondelles commencent à avoir des comportements différents. C'est qu'elles vont commencer à les sauver. On voit que la nature réagit donc aux saisons. Donc, et tandis que l'hiver progresse, que le soleil baisse en intensité et que la noirceur de l'hiver s'impose de plus en plus.
Et cette petite lumière est bien seule.
Cette petite lumière est bien seule. Et à la fois, il y a des choses très basiques. Quand on voit qu'il descend puis qu'il voit les gens qui regardent la télé derrière leur volet, alors tu dis ben non, la vie elle est normale, alors que t'as l'impression qu'elle est pas normale. T'as du mal à te situer, en fait t'arrives pas à savoir c'est pas du fantastique, c'est pas de la science-fiction, c'est très curieux quand même.
Ouais, on est entre la réalité, un petit peu de métaphysique, du rêve aussi.
Ouais, hein. Fantasme un peu.
Ouais, complètement.
D'ailleurs, c'est peut-être intéressant, je vais juste relire, parce que j'en parlais avec Magali pendant la pause. tout au début du roman, il y a une page à peu près, voilà, une petite page, un peu plus d'une page, que l'auteur a écrit. Enfin, c'est la lettre qui a accompagné, enfin, qui a été envoyée à l'éditeur. Et il lui dit je t'envoie ce court roman que j'ai écrit il y a quelques mois sur un cahier. J'ai pas envie d'en éventer l'histoire en quelques lignes parce qu'il n'est pas facile pour moi d'en parler et parce que je préfère que tu la découvres tout seul, page après page, et ne pas te gâcher la surprise. C'est une histoire qui surgit d'une zone profonde de ma vie. C'est comme une petite boîte noire. En te parlant de cette chose qui urgeait en moi et que j'étais sur le point de commencer à écrire un soir, je t'ai dit qu'elle serait pour moi d'une certaine façon testamentaire, que si je crevais au lendemain de l'avoir écrite, elle serait mon testament. Voilà. Je ne continue pas la lettre, ça donne aussi quelques pistes sur ce
oui,
texte.
Oui, ou au contraire, ça épaissit un petit peu le mystère. À savoir.
Et je voulais citer aussi, parce que comme tu as cité Pénac au début, une autre personne qui a quand même un poids important dans la littérature contemporaine, c'est Marie-Hélène Lafon. À propos de ce texte, elle dit « Ce livre noue avec une intimité, une intensité et une habileté que j'ai rarement vues, le réel et le fantastique. » C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a du basique, ce que je disais, du réel, vraiment de réel, et qui frôle tout le temps le fantastique. Et il arrive à faire passer ça comme une évidence.
Exactement. On a bien aimé effectivement ce roman pour ces raisons-là, aussi parce qu'il y a quand même pas mal de surprises en fait, et l'auteur a quand même l'art d'entretenir le suspense, alors que finalement, dans les faits, il ne se passe pas énormément de choses. Et j'ai trouvé moi aussi que ce livre, il nous offrait une parenthèse de lenteur, de silence dans ce monde trépidant et agité qu'on côtoie tous les jours. Et il nous invite au contraire à la contemplation, je trouve, à la méditation et à vivre pleinement le présent. Et je crois que cette lecture nous imprègne et continue son chemin en nous, n'est-ce pas Catherine ?
Ah oui, c'est vrai. Alors moi je l'ai lu déjà deux fois, mais je l'ai relu pour l'émission parce que je l'avais lu il y a quelques années et... C'est vrai qu'il nous reste en mémoire bien après avoir tourné la dernière page. Et une deuxième lecture, eh bien, je peux vous dire que c'est un grand bonheur. Un grand bonheur.
Alors, moi qui ne connaissais pas le livre, là, je suis tout à fait intrigué. J'ai l'impression de sentir des choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement ça. Du coup, j'ai hâte de le lire.
Bon, ben, c'est une bonne chose.
Tout à fait.
Eh bien, merci pour cette découverte. Catherine, tu nous rappelles les références de l'ouvrage, s'il te plaît ?
Bien sûr. Donc, il s'agit de La Petite Lumière d'Antonio Moresco, M-O-R-E-S-C-O, publié aux éditions Verdier en 2014, mais qui est également sorti en collection Poche Verdier en 2021, donc plus récente et un peu moins chère. Et alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a eu une adaptation en BD faite par Grégory Panation, qui a réalisé donc cette adaptation en 2023 et ça a été publié chez Delcourt. Et pour les curieux, bien sûr, ce roman est dans toutes les bonnes bibliothèques que vous connaissez dans l'aglo et même au-delà. La BD est également disponible. Voilà, et évidemment, ces ouvrages se trouvent dans toutes les bonnes librairies de Blois et des alentours.
Voilà, voilà. Eh bien, merci. Eh bien, on a hâte de découvrir ce livre-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Merci Catherine, merci Magali.
Merci,
et
merci.
Au mois prochain. Au mois prochain.
Au revoir.
Thank you.